Accent d'Europe, Catherine Roland.
London is the place for me. London, this lovely city.
Bonjour à tous. La gentrification, un joli anglicisme pour désigner le départ des classes populaires des métropoles, remplacées par des classes plus aisées, qu'on surnomme aussi les bobos. Ce phénomène est présent dans toutes les capitales et grandes villes européennes. Et d'abord à Londres, où le quartier du Sud, Elephant and Castle, est en pleine mutation. Le centre commercial va être démoli. À la place vont s'élever de terre un shopping center flambant neuf, un nouveau campus universitaire et près de 1000 habitations. Mais les habitants, eux, sont très divisés sur la question et c'est le reportage de Marie Bier.
Le quartier d'Elephant and Castle est ce que les Britanniques appellent un eyesore. En somme, il est tellement laid que ça en fait mal aux yeux. Avec son style années 70, vieilli et mal entretenu, le centre commercial n'attire plus le chaland. L'université voisine ressemble à un HLM et plusieurs immeubles décrépits sont justement des HLM. Mais depuis quelques temps, Elephant and Castle a commencé à faire peau neuve. Dans cette publicité, la mairie se vante du nouveau rond-point et de la régénération du quartier.
Ces travaux vont faire d'Elephant and Castle un endroit où l'on va, plutôt qu'un lieu qu'on ne fait que traverser. Au milieu du nouveau rond-point, nous créons un îlot pour le public avec un aménagement paysager, des bancs, des jeux de lumière, un vrai royaume urbain.
Personne ne se plaint de la disparition du Death Roundabout, le rond-point de la mort qui faisait régulièrement des victimes chez les automobilistes et les piétons. Mais c'est tout le quartier qui va devenir un royaume urbain flambant neuf et ça ne plaît pas à tout le monde.
We're standing outside Bodeguita, which is one of the large Latin elephant restaurants.
Jerry Flynn est le porte-parole de la campagne Up the Elephant qui veut sauver le centre commercial ou au moins les commerces qui sont à l'intérieur.
Le centre commercial est un mélange de magasins indépendants et de chaînes. Sur le côté, là-bas, on arrive sous les arches des voies de chemin de fer, dans le quartier qu'on appelle l'éléphant latin. Il y a aussi beaucoup de boutiques. Et juste là, où nous sommes, devant l'entrée, il y a un marché qui vend toutes sortes de choses à prix cassé.
Et justement, juste à l'extérieur, Jerry a tenu à nous montrer deux façades vides.
C'était le Coronet Cinema qui a fermé depuis quelque temps. Mais je me souviens que j'y allais le samedi matin quand j'étais enfant. C'est ensuite devenu une boîte de nuit très populaire. Les jeunes venaient de tout Londres pour y danser. Et là, on marche devant ce qui était le pub Charlie Chaplin. Il y a encore une grande image du comédien sur le mur. Il est né ici. Mais tous ces établissements ont dû fermer à cause du projet de rénovation.
Jerry nous emmène dans la boutique d'Imad. Il tient une tech room qui fait café internet, imprimerie, réparation et vente de matériel électronique. Imad est justement en train d'ouvrir le magasin et lui ne bougera pas.
Je suis un battant, c'est ici que j'existe. J'aime les défis et c'est ici que je continuerai à exister.
Imad a ouvert sa boutique en 2009. Il savait à l'époque que ce serait temporaire. Mais comme la fermeture du centre commercial a été sans cesse repoussée, il a fait son nid. Il estime maintenant que trop de temps a passé, qu'il a ses racines ici. Le problème, c'est que les décisions tardent à être prises et qu'au fur et à mesure, les clients vont chercher ailleurs des boutiques similaires qui, elles, sont appelées à rester.
On a perdu 70% de notre fréquentation. Avant, je comptais environ 150 clients par jour. Désormais, c'est entre 50 et 70. Aujourd'hui, pour un mercredi à 10h du matin, je n'ai qu'un seul client. Ça n'était pas du tout comme ça avant.
Avant, c'était quand le projet de rénovation était toujours en discussion. Mais maintenant qu'il y a une certitude, tout a changé. Les boutiques, comme celle d'Imad, vont être déplacées vers un espace temporaire. Il continuera à payer le même loyer qu'aujourd'hui, soit environ 30 000 euros par an. C'est très peu pour une boutique de bonne taille, dans un quartier si bien desservi. Alors les promesses des nouveaux propriétaires pour donner la priorité aux commerçants installés dans le futur ex-centre commercial, ça ne vaut rien pour Imad.
Pendant 5 ans, on a droit à une réduction de loyer jusqu'à 40%. Avec des paliers. On est aussi prioritaire si on veut s'engager à louer sur plan un local commercial. Mais ils refusent de nous donner le montant du nouveau loyer. S'il est à 300 000 par an, je ne peux pas m'engager.
Le chiffre d'Imad est exagéré, mais il risque en effet de voir son loyer doubler. C'est le problème, selon Imad et Jerry. Les locaux sont au fur et à mesure poussés hors du quartier de manière détournée, et pour Jerry, c'est briser une communauté.
Ça va tout changer pour nous ici à Elephant and Castle. La communauté va être dispersée, déplacée. D'autres gens vont venir à la place, beaucoup plus fortunés. C'est ce qu'on appelle la gentrification.
Alors, Jerry se bat pour qu'il y ait plus de logements sociaux, pour que la salle de bingo qui occupe aujourd'hui quasiment tout le dernier étage soit reconstruite. En tout cas, qu'il y ait un lieu de sociabilité pour les personnes âgées ou à faible revenu.
À Berlin, finit la belle époque des prix immobiliers abordables. Longtemps paradis des loyers, la capitale allemande fait face depuis quelques années à une explosion des prix. Rien qu'entre 2016 et 2017, ceux-ci ont augmenté de plus de 20%, soit la plus forte progression au monde, loin devant des villes comme Hong Kong, Paris ou Londres, avec pour conséquence des quartiers entiers où les anciens habitants n'ont plus les moyens de se loger. Les autorités de la ville essaient de réagir avec des mesures fortes, Julien Michossi.
25 millions d'euros, c'est le prix du plus cher appartement berlinois jamais mis en vente à l'automne dernier et qui en dit long sur la folie immobilière qui s'est emparée de la capitale allemande. Alors qu'il y a encore une dizaine d'années, il suffisait de quelques jours pour trouver un grand deux pièces pour 500 euros par mois dans un quartier attractif, il faut compter aujourd'hui le double, voire le triple. Un phénomène de gentrification que le Sénat berlinois tente de juguler avec des mesures censées effrayer les spéculateurs. La plus emblématique est celle dite du Milieuschutz ou de zone protégée. Lorsqu'un quartier est déclaré protégé par les autorités, la vente d'appartements locatifs est alors soumise à l'autorisation de la ville, tout comme leur rénovation. Impossible, a priori donc, pour des spéculateurs de racheter des appartements pour les revendre au prix fort après quelques travaux et le départ forcé des locataires. Mais lorsque le propriétaire d'un immeuble veut absolument vendre son bien, la ville dispose d'un droit de préemption. Si elle n'en fait pas usage, elle le perd au profit de possibles spéculateurs. Et avec une dette de près de 60 milliards d'euros, Berlin ne peut pas se permettre de racheter tous les logements menacés par des sociétés immobilières. La cinquantaine de zones déclarées protégées concerne ainsi plus de 400 000 logements. Devant ces difficultés, Berlin réfléchit à d'autres mesures, plus radicales, l'interdiction pour les étrangers d'acheter un bien immobilier ou encore l'expropriation des grandes sociétés immobilières privées qui font grimper les prix à la location.
Malasagna. Dos de mayo, poco importa de qué año, malasaña.
Ancien quartier de la Movida où la drogue et l'alcool ont fait des ravages dans les années 80, le quartier de Malasaña est situé en plein centre de Madrid. Mais il tente aujourd'hui à devenir un repère à bobo pour espagnols et touristes. Reportage Diane Cambon.
Sara est une madrilène pure souche. À 48 ans, professeure à l'université publique et passionnée d'art, elle adore se balader dans les ruelles du vieux Madrid, passer du temps en terrasse et faire du shopping branché. Citadine jusqu'au bout des doigts, elle assiste avec satisfaction à la transformation ces 15 dernières années de sa ville chérie. Même si parfois le changement est radical, comme c'est le cas dans le mythique quartier de Malasaña, situé en plein centre.
Beaucoup de quartiers de Madrid, Malasaña, Lavapiés ou Tirso de Molina étaient très détériorés. C'était des zones malfamées. Quand tu te baladais sur les places ou dans les rues, tu pouvais croiser plein de drogués, c'était vraiment désagréable. Et maintenant, ces quartiers sont devenus plus chics, avec des boutiques spécialisées, de vêtements branchés, des chocolateries, des boulangeries fines. Et c'est une ambiance très bobo.
La population locale, comme les résidents du troisième âge, suivent la transformation de leur quartier avec résignation, comme le remarque la kiosquaire Sonia, qui depuis 33 ans vend le journal sur la place du 2 mai.
Oui, ça a changé, il y a toute cette mode du vintage, mais pour nous autres, les habitants, on s'en fiche un peu. Certes, il y a plus de gens qui achètent. Le quartier doit être connu car beaucoup de gens de l'extérieur y viennent.
Et en effet, le quartier est à la mode depuis une vingtaine d'années. À tel point qu'il est désormais quasiment impossible de s'y loger. Outre la cherté des locations ou des appartements à la vente, les offres sont très rares, comme le reconnaît Sonia.
J'ai tout le temps du monde qui vient me demander si je n'ai pas entendu parler d'un appartement à louer ou à acheter. Des investisseurs étrangers viennent me voir régulièrement. Mais c'est hors de prix. Pas loin d'ici, un 70 mètres carrés se vend 489 000 euros.
Comme le reste des grandes villes européennes, Madrid n'a pas échappé au phénomène du tourisme de masse. Des hordes de voyageurs qui traînent leurs valises à roulettes envahissent chaque week-end les quartiers centraux de la capitale. Un dilemme économique auquel doivent faire face les autochtones, comme le reconnaît Sarah.
Il y a un tourisme qui existe grâce à Airbnb et parfois c'est gênant, je dois le reconnaître. C'est artificiel et cela donne un autre caractère au quartier. Mais en même temps, c'est tout bénef pour les gens d'ici et aussi pour les touristes.
Et pourtant, les commerces traditionnels sont les plus touchés par ce tourisme volatile. Ruben tient depuis 6 ans une boutique de réparation de vélos sur la place du 2 mai. Son atelier, dédié à des urbains bobos, à la conscience écologique développée, souffre malgré tout de l'effet pervers d'être situé dans un quartier à la mode.
Au début, on avait des clients résidents dans le quartier, mais beaucoup de travailleurs indépendants sont partis vivre plus loin, car c'est devenu trop cher depuis le boom du Airbnb. On a vu comment Malasaña a accueilli une nouvelle population, avec plus de touristes étrangers, des étudiants. Et pour les commerces de quartier, ça devient très compliqué. Malasaña a une offre dirigée vers l'hôtellerie, car ce qui marche, c'est le tourisme. Et c'est vraiment pas facile pour nous.
Même constat chez la kiosquière qui peine à vendre ses journaux.
La pizzeria, elle est pleine tous les jours. Et les terrasses de café autour, c'est pareil. Complet, même s'il fait froid. Il suffit d'un mini rayon de soleil, c'est rempli.
Les projets de la maire de Madrid de vider les voitures du centre de la capitale va modifier encore davantage le quartier. Malasaña va devenir un îlot protégé de la pollution pour une clientèle encore un peu plus sélecte.
Istanbul, l'embourgeoisement de certains quartiers historiques a commencé il y a plus de 20 ans déjà. Balat, l'ancien quartier juif de la ville, a longtemps résisté jusqu'à ce que des promoteurs immobiliers jettent leur dévolu sur ces petites rues pavées, poussant peu à peu au départ ses habitants les plus pauvres à Nandlauer.
De vieilles bâtisses en bois qui tiennent on ne sait trop comment, d'autres aux façades si colorées que la peinture semble encore fraîche, du linge étendu entre les fenêtres, des enfants pour qui la chaussée est un terrain de jeu, et les voitures et les charrettes des marchands ambulants, des empêcheurs de sauter en rond. Balat est, par certains aspects, un quartier comme on n'en trouve plus, ou presque plus à Istanbul. Un quartier où l'on ne vit pas à l'ombre d'immeubles de 5 étages ou plus, où les enseignes de prêt-à-porter n'ont pas encore accroché leurs cintres, où le passé semble encore présent. Installé sur la Corne d'Or, Balat est un ancien quartier juif. Il conserve d'ailleurs plusieurs synagogues, dont certaines en activité. Sous l'Empire ottoman et jusqu'au début du XXe siècle, ces juifs séfarades avaient des voisins grecs, arméniens, musulmans. Mais au fil des décennies, la plupart des non-musulmans ont quitté leur quartier et souvent leur pays. Comme ailleurs, d'autres habitants les ont remplacés, venus d'Anatolie, surtout des rives de la mer Noire dans le cas de Balat. Balat ne ressemble pas encore à d'autres quartiers historiques de la mégapole qui ont perdu leur âme il y a bien longtemps. Mais sa gentrification, en plusieurs étapes, a déjà commencé. En témoignent les nombreux cafés, tous identiques et sans saveur, les appartements hors de prix qui commencent à peupler ces rues. Paradoxalement, c'est par un projet de l'UNESCO, l'Union européenne et la municipalité locale que le processus a commencé. Ce projet censé réhabiliter les demeures du quartier est resté inachevé et la mairie a pris le relais avec des promoteurs privés davantage soucieux du profit que de la préservation du patrimoine culturel et du tissu humain de Balat. D'autres initiatives privées aidées par une législation et des fonctionnaires arrangeants ont fait le reste ces dernières années. Beaucoup de locaux ont dû quitter leur logement devenu trop cher et des artistes et intellectuels qui avaient parié sur Balat en y restaurant des maisons ou en y ouvrant des espaces respectueux de l'histoire du quartier et de ses habitants commencent à ne plus s'y retrouver. Ils partiront peut-être à leur tour et les façades colorées sembleront finalement bien fades.
Hard Brexit.
Retour à l'actualité du Brexit. Énième épisode lundi dernier devant la Chambre des communes où Theresa May a échoué à présenter un quelconque plan B. C'est au tour des parlementaires de présenter une nouvelle version le 29 janvier prochain. L'impasse actuelle renforce encore le risque d'un no deal dont les conséquences seraient lourdes pour une économie britannique déjà fragilisée par l'incertitude actuelle. Cette perspective a de quoi faire frémir également un certain nombre de pays européens particulièrement lié au Royaume-Uni. Bonjour Daniel Vigneron.
Bonjour Catherine.
Alors pour commencer Daniel, rappelez-nous pourquoi le projet d'accord avec l'Union européenne ne passe pas outre-Manche.
Mis à part les adversaires résolus du Brexit, minorité au Parlement, Le rejet massif il y a 10 jours du projet d'accord est le fait des députés conservateurs considérant que le Brexit proposé n'est qu'une fausse sortie. D'une part parce que la période transitoire fixée jusqu'à décembre 2020, mais qui peut être prolongée 2 ans de plus, met le Royaume-Uni dans la situation de supporter toutes les obligations liées à l'Union européenne sans pouvoir avoir désormais son mot à dire dans les décisions de l'Union, la contrepartie étant évidemment le maintien provisoire de l'Union douanière. Mais ce qui chagrine le plus les défenseurs d'un hard Brexit, c'est ce que l'on appelle l'accord de backstop, littéralement pas de retour en arrière, concernant l'Irlande. Car pour éviter de menacer l'accord de paix conclu il y a 20 ans en Irlande du Nord par le rétablissement d'une frontière entre cette Irlande britannique et la République d'Irlande, il est proposé d'instaurer à la fin de la période de transition un territoire douanier unique incluant l'Union européenne et le Royaume-Uni. En outre, pour rendre inutile tout contrôle frontalier entre les deux Irlandes, l'Irlande du Nord devrait continuer de se soumettre à certaines normes européennes, notamment sanitaires, fiscales ou relatives aux aides d'État, ce qui ferait de l'Irlande du Nord une zone à statut différent de celui du reste du Royaume. Inacceptable pour le partisan d'un Brexit dur.
Avec un no deal, quels sont les risques ?
Une sortie sans accord aurait d'abord des conséquences dramatiques pour le Royaume-Uni en termes d'inflation, de dépréciation de la livre, de désinvestissement et donc de chômage. La Banque d'Angleterre anticipe dans ce cas une baisse de 8% du PIB sur 5 ans. Mais la sortie sèche d'un pays représentant actuellement près de 15% de la production européenne et 23% des exportations de l'UE impacterait bien sûr le reste de l'Union.
Et dans quel domaine précisément, Daniel ?
Prenons le commerce. Le rétablissement des droits de douane suivant les règles de l'organisation du commerce ne devrait pas porter ces droits à plus de 5% en moyenne, à l'exception de certains produits. Mais s'il s'y ajoute une possible nouvelle dépréciation de 15% de la livre sterling face à l'euro, les exportations européennes outre-Manche s'en trouveraient donc renchéries au total de 20%, ce qui risque de faire fondre les considérables excédents commerciaux que presque tous les pays du continent dégagent vis-à-vis du Royaume-Uni. À commencer par l'Allemagne, qui avec ses près de 53 milliards de dollars d'excédents dégagés sur le Royaume en 2017, soit environ 48 milliards d'euros, l'Allemagne perdrait au moins 0,3% de points de croissance sur un an si son excédent se réduisait seulement de 25%. Ce n'est pas le cas de la France dont l'excédent est limité. Mais le scénario tourne à la catastrophe pour les Pays-Bas, deuxième excédent bilatéral européen outre-Manche, dont la croissance diminuerait de 1%. La Belgique et le Danemark seraient également impactés par un recul du PIB compris entre 0,6 et 0,8%.
Alors quid des investissements européens au Royaume-Uni ?
Avec un total de 1600 milliards de dollars investis sur le territoire par les étrangers à la fin 2017, le Royaume-Uni est effectivement la première destination européenne de l'investissement direct des pays de l'UE. Du fait que ce pays attire par sa fiscalité un nombre exceptionnel de sièges sociaux de grands groupes, les Pays-Bas sont le premier investisseur européen en Grande-Bretagne avec près de 300 milliards de dollars d'actifs, soit 18% du total. Mais la France vient ensuite avec 6% devant l'Allemagne et l'Espagne.
Le Brexit ne risque-t-il pas de décourager les touristes britanniques ?
Les touristes britanniques dépensent près de 30 milliards de dollars par an dans les pays de l'UE. D'abord en Espagne, où près de 11 millions de British se rendent tous les ans, mais aussi en France, où ils sont 6 millions, bien plus que les 2 millions qui se rendent en Italie ou encore au Portugal.
Conclusion, Daniel, la France risque d'être bien secouée, elle aussi, par le Brexit.
Globalement, la France apparaît comme l'un des pays de l'Union significativement touchés par un hard Brexit, finalement davantage que l'Allemagne. Mais c'est sans commune mesure avec ce que subirait, compte tenu de sa taille, l'économie néerlandaise. Et nos amis belges et espagnols ont également de quoi se faire du souci.
Daniel Vigneron du site myeurope.info. À la semaine prochaine, Daniel.
À bientôt, Catherine.
Françoise Grelot était à la réalisation et à la mise en onde. Vous pouvez nous suivre sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. À demain.